Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Heureuse de vous retrouver, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour.
Alors il y a eu des appels d'auditeurs étaient inquiets parce que pendant environ 17 heures, on était hors d'onde.
En fait, depuis hier, 5h18 exactement, on a perdu, on a eu un gros problème technique.
Mm-hmm.
Et on a résolu le problème ce matin à 8h27, je pense.
Bon. Alors, on en est désolé,
oui,
mais c'est vraiment hors de notre contrôle, en tout cas du mien.
Oui, ça, tout à fait.
On vous écoute, mon cher.
Bon, alors, le 22 mars, je sais, hier était une journée fort occupée pour ce qui est des journées internationales et mondiales.
Le 20 également, Mathieu, c'était Maurice qui était là. Il y avait des journées en veux-tu, en v'là. Le 21 avec Jean-Sébastien, puis avec vous, est-ce que ça change ou c'est la
journée
même
mondiale
chose?
De l'eau. Voilà, moi, je retourne le calme.
La totale.
T'es plein de vie.
Oh oui, sans eau, on ne vaut rien.
C'est exact. On est mou, sans eau. Mm. Bon, 22 mars 1312, le pape Clément V abolit l'ordre des Templiers. 1429, Jeanne d'Arc adresse une lettre aux Anglais. « Je suis venu de par Dieu, le roi du ciel, pour vous bouter hors de France. » C'est ce qu'elle écrivait. En 1622, en Virginie, 350 colons sont tués lors du premier massacre d'Européens par des Autochtones en Amérique du Nord. En 1794, toujours en 22 mars, le Congrès interdit aux navires américains de transporter des esclaves vers d'autres pays. 1818, c'est le dimanche de Pâques le plus hâtif connu. Cela ne doit se produire à nouveau qu'en 2285. Préparez vos chocolats.
Le prochain, c'est le 1er avril, c'est quand même tôt.
C'est très bientôt.
Mais mi-mars, c'est encore plus tôt, ça.
Oui, effectivement, 22 mars. En 1895, première projection du film grâce au cinématographe par les frères Lumière. 1929, des gardes-côtes américains coulent dans le golfe du Mexique la goélette I'm Alone, basée en Nouvelle-Écosse, qui transportait de l'alcool de contrebande. 1933, c'est la fin de la prohibition aux États-Unis. La Jordanie obtient son indépendance en 1946, un 22 mars. Please, Please Me devient le premier succès numéro 1 des Beatles en Grande-Bretagne. 1978, à la prison de Saint-Jérôme, 3 ravisseurs et 6 captifs sortent après une prise d'otage remontant au 8 mars. La Ligue nationale de hockey en 1979 admet en ses rangs 4 équipes de sa rivale, l'AMH. Les Oilers, les Whalers, les Jets et les Nordiques. Ouhou, mon cœur de Québec bat, même si je ne suis pas nécessairement un grand fan de hockey. 1997, 5 adeptes de l'Ordre
des
Temple.
Des drôles de liaisons,
oui,
ce matin.
Je suis généreux dans mes... Je me suis dit, c'est la journée mondiale, tiens, des liaisons.
Mal à propos.
Voilà. Alors, 5 adeptes de l'Ordre du Temple solaire sont trouvés morts dans une maison incendiée à Saint-Casimir, dans le comté de Portneuf, en 1997. Et des kamikazes, en 2016, se font exploser à l'aéroport de Zaventem et dans un métro à Bruxelles, en Belgique, faisant ainsi 30 morts. Et pour ce qui est des naissances, du 22 mars, l'écrivaine Gabrielle Roy, qui est née au Manitoba en 1909, le chanteur et compositeur Roger Whittaker en 1936 et en 1923,
silence.
Marcel Marceau. Alors le mime,
oui.
Père de Bip, est né un 22 mars en 1923, décédé.
D'où le moment de silence.
Voilà, c'était commandité par Bip.
Décédé en quelle année,
2007.
Mathieu? Merci.
Et pour ce qui est des décès, en 1832, l'écrivain allemand Johann Wolfgang von Goethe, qui était né, lui, en 1749. L'écrivain et journaliste Claude Mauriac, qui était né, lui, en 1919 et décédé en 96. Et le compositeur français Jean-Baptiste Lully, qui était né en 1632 et décédé en 1687. Voilà.
Merci.
Ça fait plaisir.
En une de la presse exclusive, un enfant inuit presque volé, entre guillemets, par la DPJ, 11 foyers en un mois, une mère éplorée, une famille d'accueil improvisée, un jugement de la Cour du Québec est cinglant à l'égard du travail des services de protection de la jeunesse. Pause repas, ceci a tout changé. Il y a 50 ans, le micro-ondes entrait dans nos cuisines. La chronique de Marie-Claude Lortie, Facebook, la fin du Far West. La chronique de Francis Vaille, les gros salaires de la Caisse de dépôt. Une photo de Céline Dion sur une scène, la presse à Las Vegas, des concerts annulés, des fans déboussolés. Je suis vraiment désolée, le patron de Facebook devra rendre des comptes. Sortant d'un long silence, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, s'est enfin dit désolé et a reconnu des erreurs après des jours de polémique autour de l'utilisation indue de données personnelles de millions d'utilisateurs par la firme britannique Cambridge Analytica. Cela a constitué un abus de confiance très important et je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Notre responsabilité est de faire en sorte que cela ne se reproduise pas, a déclaré le responsable dans une interview hier soir sur la chaîne CNN, formulant enfin des excuses très attendues. Alors même que le scandale devenait retentissant, M. Zuckerberg était pourtant resté silencieux ces derniers jours avant de rompre son silence plus tôt hier via une publication sur sa page Facebook. Il y reconnaissait des erreurs et sa responsabilité dans ce qui se passe sur Facebook, mais sans s'excuser. L'affaire pourrait coûter gros au roi des réseaux sociaux. Des cabinets d'avocats américains ont annoncé hier avoir déposé des plaintes et actions collectives au nom de citoyens et d'actionnaires, et Facebook affrontait une campagne d'appel à se désabonner. Mot-clé « Delete Facebook ». Facebook est dans la tourmente depuis que Cambridge Analytica, CA, est accusé d'avoir récupéré à leur insu les données de 50 millions d'utilisateurs pour mettre au point un logiciel permettant de prédire et d'influencer le vote des électeurs afin de peser dans la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. Et dans une mise à jour aujourd'hui, donc dans la presse, je vous lis un extrait de cet article. Les excuses tardives et les promesses du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, étaient loin jeudi d'éteindre la polémique autour de l'utilisation indue de données personnelles de millions d'utilisateurs par la firme britannique Cambridge Analytica. J'ai vu la nuit dernière que Mark Zuckerberg s'était excusé et avait dit qu'ils allaient faire des changements. Mais franchement, je ne pense pas que ces changements aillent loin, a déclaré jeudi le ministre britannique de la Culture, Matt Hancock. Beaucoup de questions restent sans réponse, a commenté sur Twitter le président du Parlement européen, Antonio Tajani, qui a dit attendre avec impatience d'autres explications du patron de Facebook. Cela ne va pas suffire, a sèchement commenté sur Facebook un élu démocrate à la Chambre des représentants, David Cicilline, pour qui Mark Zuckerberg devait s'exprimer devant le Congrès américain. La direction de la protection de la jeunesse, DPJ, a presque volé un enfant inuit à sa mère, tranche un tribunal, après avoir placé le bébé dans 11 foyers d'accueil en un mois. Les intervenants sociaux l'ont confié à une femme qui n'était pas certifiée famille d'accueil et chez qui il semble l'avoir oublié durant des années. Plusieurs fois, la mère a demandé où était son fils. Elle n'a jamais eu de réponse. Un jour de 2011, le poupon a été transporté d'urgence par avion du Nunavik vers un hôpital montréalais. Il n'est pas revenu. Selon la Cour, la DPJ a « magouillé » entre guillemets dans le dos de sa mère pour le faire adopter par une famille d'accueil non certifiée, à 6 heures d'avion de sa communauté. 6 ans plus tard, l'enfant, né d'une mère inuite et d'un père blanc, n'a eu pratiquement aucun contact avec son côté inuit. Il ne parle pas l'inuktitut selon des rapports internes de la DPJ. La juge Lucille Beauchemin de la Cour du Québec est cinglante. La direction de la protection de la jeunesse, dit-elle dans un jugement daté de janvier, a agi de manière immorale et non nécessaire. Elle a abusé de son autorité, elle a presque volé l'enfant à sa mère légale et a clairement violé les droits de l'enfant. La magistrate a d'ailleurs exigé que son jugement soit transmis à la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et les services publics qui siègent depuis plusieurs mois au Québec. Elle ordonne à la DPJ de présenter des excuses écrites à la famille. La Plaza Saint-Hubert changera de visage. Les amants de la rue Saint-Hubert pourront pousser un soupir de soulagement. La future marquise couvrant la plaza sera à l'épreuve des pigeons. En plus de moderniser la structure caractéristique de verre de l'artère, le concept retenu par l'administration Plante pour le réaménagement de la rue commerciale prévoit un rétrécissement de la chaussée à une seule voie afin d'élargir les travaux. Durant les travaux, les commerçants auront accès à un soutien de la ville. Les immeubles commerciaux seront admissibles à une subvention de 50 000 à 300 000 $ pour refaire leur façade. L'allègement de la marquise devrait d'ailleurs permettre aux amants de la rue Saint-Hubert de découvrir de belles façades autrefois cachées, a estimé François Croteau. L'Association des commerçants s'est par ailleurs réjouie du plan présenté par l'administration Plante hier, estimant qu'il ferait entrer leur rue dans le 21e siècle. Les travaux de réfection de la Plaza Saint-Hubert débuteront en août pour se terminer à la fin de 2020, un chantier évalué à 55 millions de $. Les travaux se dérouleront par section. Soupçon de financement libyen, l'ex-président Nicolas Sarkozy inculpé. L'ancien président de France, Nicolas Sarkozy, a été inculpé hier soir dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne électorale pour la présidentielle de 2007, a-t-on appris de sources judiciaires. M. Sarkozy, qui nie les faits qui lui sont reprochés, a été mis en examen, inculpé entre parenthèses pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens et a été placé sous contrôle judiciaire, a précisé cette source. La garde à vue de l'ancien président qui avait débuté mardi s'est terminée hier en fin d'après-midi. Elle a duré en tout 26 heures. L'ex-président était arrivé peu avant 8 heures à l'Office anticorruption à Nanterre, près de Paris, selon des sources proches du dossier. Cette nouvelle étape dans un dossier instruit par des magistrats du pôle financier depuis près de 5 ans marque un retour aux affaires de Nicolas Sarkozy, mais à la rubrique judiciaire attitrée Le quotidien Libération hier. Son confrère Le Parisien a parlé du « cadeau » entre guillemets posthume de Muammar Kadhafi. Depuis la publication en mai 2012 par le site d'information Mediapart d'un document libyen attribué à l'ex-chef des renseignements Moussa Koussa, accréditant un financement d'environ 50 millions d'euros pour permettre notamment à la Libye de sortir de son isolement diplomatique, les investigations des juges ont considérablement avancé. Plusieurs protagonistes du dossier, dont plusieurs ex-responsables libyens, ont accrédité la thèse de versement illicite. L'ancien chef de l'État a toujours rejeté ces accusations. La thèse d'une chute accidentelle aux abords de la rivière des Prairies est l'hypothèse principale pour expliquer la disparition d'Ariel Jeffrey Kouakou au terme de 10 jours d'enquête, selon la police de Montréal. Il a été vu pour la dernière fois à 11h25 à proximité du cours d'eau et nous n'avons aucune image des caméras de surveillance autour qui le montrent s'éloigner. On travaille l'hypothèse de l'accident et nos recherches se concentrent sur le cours d'eau, affirme l'inspecteur Yann Lafrenière. Le SPVM dit avoir reçu environ 700 appels de citoyens qui ont fourni des informations à vérifier dans le cadre de l'enquête. Quelques 500 bénévoles ont par ailleurs appuyé les recherches pour retrouver le garçon de 10 ans d'Hantsik Cartierville, disparu depuis le 12 mars. Le père de l'enfant a déclaré cette semaine aux médias qu'il demeurait convaincu que son fils avait été enlevé.
Neil Young, sa chanson Old Man.
En une du Devoir de ce jeudi 22 mars, Service Canada, on voit cette image, heure de service, 8h30, 16h lundi au vendredi, mais c'est surtout pour parler de quelque chose dont tout le monde parle justement, ni monsieur ni madame à Service Canada. Mark Zuckerberg promet d'en faire plus pour protéger les données. Turbulence extrême dans une école primaire. La chronique de Michel David, le test d'expulsion. Et le rôle de l'Église dans la disparition du français en Louisiane. Ni monsieur ni madame, une directive de Service Canada sur l'usage du genre neutre fait polémique. Le gouvernement de Justin Trudeau tente tant bien que mal de calmer le jeu. Devant le barrage de critiques dont il fait l'objet à cause d'une consigne envoyée à ses fonctionnaires, leur enjoignant de ne pas d'emblée Abordez les citoyens avec les salutations genrées, monsieur ou madame. Si le NPD se présente comme un allié dans ce débat, conservateurs et bloquistes y voient une préoccupation complètement déconnectée de celle des citoyens ordinaires. Le document mis au jour par Radio-Canada mercredi émane de Service Canada. Il s'agit de notes d'allocution pour les gestionnaires et les chefs d'équipe qui rencontreront, dis-je bien, leurs employés au sujet de l'usage du langage de genre neutre. Nous vous demandons, personnel de première ligne, d'utiliser un langage neutre au niveau du genre, peut-on y lire. L'usage de titres honorifiques dans les interactions avec les clients, monsieur, madame, mademoiselle, etc., peut également être perçu comme étant genre spécifique par le client. Les agents de Service Canada peuvent s'adresser aux clients par leur nom, au complet, et leur demander de quelle façon ils préfèrent que l'on s'adresse à eux. Sentant la soupe chaude, le ministre responsable de Service Canada, Jean-Yves Duclos, a voulu assurer que les termes « monsieur » et « madame » n'étaient pas proscrits du vocabulaire des fonctionnaires. La question sera plutôt posée, a-t-il expliqué, dans les cas où Service Canada n'est pas sûr de la façon dont on peut parler aux citoyens. Le Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité salue la décision de Service Canada. « Nous sommes tellement heureux, c'est une nouvelle fantastique et importante », lance Jérémy Diaz, le directeur du Centre canadien. Ça va faire avancer les droits des personnes transgenres et non binaires. Et toujours à ce sujet, Manon Cornelier écrit « À la prochaine, mesdames et messieurs » ou « À la prochaine, mesdames, messieurs ». Les employés de Service Canada ne devraient plus, au premier contact avec un citoyen, s'adresser à lui en utilisant les formules de politesse « monsieur » et « madame ». Selon une note interne obtenue par Radio-Canada, un employé devrait d'abord demander comment le citoyen souhaite être salué et, si ce dernier refuse ces formules, on devrait s'abstenir de les utiliser avec lui. Dans sa note envoyée au gestionnaire à la mi-janvier, Service Canada expliquait vouloir que les fonctionnaires utilisent un langage neutre au niveau du genre afin d'éviter de donner l'impression d'un biais envers un genre ou un sexe. Cette démarche découle d'un examen entrepris à l'échelle du gouvernement fédéral à la suite d'une plainte faite en 2012 auprès du Tribunal des droits de la personne par une personne transgenre qu'on avait abordée sans égard à son genre et dont on refusait de modifier le dossier d'assurance sociale. Il n'y a rien à reprocher à ce qui est un désir d'inclusion, mais de là à demander à un fonctionnaire d'écarter les formules de politesse courantes lors de son premier échange avec un citoyen, le temps de vérifier sa préférence, il y a une marge. Ça ressemble à un cas d'hypersensibilité, sinon de rectitude politique. Le ministre responsable de Service Canada, Jean-Yves Duclos, s'en est défendu après avoir été mis sur la sellette mercredi. Son bureau s'est empressé de faire savoir qu'il ne s'agissait pas d'une directive, mais d'une simple note de service, inexacte par ailleurs, destinée à des gestionnaires pour les inviter à parler avec leurs employés de cet aspect du service aux clients. Ce message, déjà plus sensé, semble ne pas avoir été compris. Il faut qu'il le soit, et sans attendre. Si une personne a le droit de ne pas vouloir être abordée avec les mots « monsieur » ou « madame », la très grande majorité de la population, elle, les considère toujours comme la marque de la courtoisie la plus élémentaire. Thank you. Martine Ouellet menace de poursuivre la joute. La chef bloquiste aurait été blessée par les commentaires des panélistes de l'émission. C'est un article dans Le Devoir, donc écrit par Hélène Buzetti et Marie Vastel. Furieuse des propos qui ont été tenus à son endroit sur les ondes de TVA, la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, a envoyé une mise en demeure à l'émission La Joute, a appris Le Devoir. Son avocat réclame une rétractation en ondes des quatre panélistes. Selon les informations obtenues auprès de six sources distinctes, le célèbre avocat Guy Bertrand a été retenu par Mme Ouellet pour contester certains commentaires des participants Bernard Drainville, Paul Larocque, Luc Lavoie et Caroline Saint-Hilaire. La mise en demeure stipulerait, indique-t-on en coulisses, que leurs propos ont fait de la peine à Mme Ouellet ainsi qu'à sa mère. Maître Bertrand a donc sommé cette semaine les panélistes de l'émission Vedette du réseau TVA de lire en ondes un texte de son propre cru qui consisterait en une rétractation, a précisé une source au Devoir. Québecor n'a pas répondu aux questions du Devoir. L'émission visée par la mise en demeure est celle du 8 mars dernier, jour où la chef du Bloc québécois avait annoncé la tenue d'un référendum sur la mission du Bloc, alors que le parti était déchiré à la suite du départ de 7 de ses 10 députés. De 7 de ses 10 députés, dis-je bien. Martine Ouellet, entourée de sa garde rapprochée, de sa garde républicaine, disait Paul Larocque, en guise d'introduction au segment de 8 minutes de l'émission. Martine Ouellet s'inspire de René Lévesque avec un Martine Rindhomme pour aller consulter les membres du Bloc, ajoutait-il. Son collègue Bernard Drainville disait pour sa part que la question du référendum va être rédigée pour obtenir le résultat qu'elle souhaite. Caroline Saint-Hilaire ajoutait quant à elle que la chef bloquiste était en train d'inventer une façon de poser des questions sans jamais poser la question et se remettre en question. Vous écoutez le quotidien des quotidiens en ce 22 mars. C'est Hélène Denis qui vous accompagne à Canal M de Vues et Voix. Merci d'être à l'écoute et restez avec nous dans un petit moment à la suite de l'émission avec la revue de presse du Journal de Montréal.
Tellement jolie, je t'aime. I love you. Si tu veux un rendez-vous, mais moi, je serai doux, 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 forever. Pour toujours. Viens dans mes bras, ma petite fille. Je veux pas que cet amour se casse. J'ai plein d'amour à donner.
Plein d'amour.
J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour. S'amuser, automne, hiver, printemps, été, forever, pour toujours. Tu me dis que l'amour n'existe pas. Regarde dans mes yeux, dis-moi ce que tu vois. Wow, wow, j'ai plein d'amour à donner.
Plein d'amour.
J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour. Plein d'amour à donner.
Plein d'amour.
J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour.
Plein d'amour.
Damien Robitaille, sa chanson Plein d'amour.
À la une du Journal de Montréal, son cœur ruiné par la drogue, en attente d'une greffe cardiaque à seulement 23 ans, Joé Lagacé-Maillé a livré un touchant message pour mettre les jeunes en garde contre les drogues. Ottawa, négligent avec vos renseignements personnels. 10 marathons en 10 jours, fou de la course. Céline annule 14 spectacles, encore malade. Vaste frappe contre le tabac illégal, le trajet emprunté par les contrebandiers passait par les États-Unis et l'Ontario avant de revenir au Québec, un réseau de contrebandiers de tabac dont les marchandises transitaient sur plus de 3000 km à travers le Canada et les États-Unis et qui permettait à la mafia italienne de s'en mettre plein les poches a été démantelé hier par la Sûreté du Québec. Une dizaine de frappes simultanées ont été réalisées aux Aurores hier à Montréal, sur la rive nord et en Ontario. Il s'agissait de la dernière étape de l'opération Olios, amorcée il y a 18 mois. La mafia sera ainsi privée d'une importante source de revenus, considérant qu'elle a empoché 7,3 millions en moins de 2 ans grâce à ce vaste stratagème. Celui-ci représente une fraude de 208 millions de dollars pour les deux paliers de gouvernement, selon la police provinciale. Au total, 14 personnes qu'on soupçonne d'être impliquées dans cette fraude ont été interpellées hier matin. Parmi elles, on retrouve la présumée tête dirigeante du réseau, Domenico Agostino, ainsi que son complice, Domenico Cucchello. Malgré une ruse bien planifiée, une étroite collaboration entre la SQ, la police provinciale de l'Ontario, l'Agence des services frontaliers, ainsi que le département de la sécurité intérieure des États-Unis, Homeland Security, a permis aux autorités de démanteler le réseau. Ottawa, des brèches de sécurité par milliers. Le gouvernement fédéral est incapable de protéger les informations privées des Canadiens. Les informations personnelles de centaines de milliers de Canadiens détenus par Ottawa pourraient s'être retrouvées entre de mauvaises mains l'an dernier à cause de la négligence du gouvernement fédéral, une situation qui en choque plusieurs. Je suis extrêmement perturbée par le nombre de brèches dans la vie privée des Canadiens au gouvernement fédéral, s'insurge le député néo-démocrate ontarien Charlie Angus, et je suis tout aussi choqué par sa tendance à camoufler ses brèches. Des documents obtenus par M. Angus et consultés par le journal démontrent que le fédéral peine à conserver loin des regards indiscrets des renseignements personnels de citoyens. Au total, environ 250 000 Canadiens ont été victimes de ces failles depuis janvier 2017. L'Agence du revenu, par exemple, a perdu la trace d'informations confidentielles de plus de 21 000 contribuables. Poste Canada a de son côté égaré plus de 400 passeports. Ironiquement, même l'Agence d'espionnage électronique canadienne n'est pas à l'abri des incidents de sécurité. Une brèche a été ouverte lorsqu'un employé du Centre de la sécurité des télécommunications s'est fait voler du matériel appartenant à son employeur. Selon un professeur de criminologie à l'Université Laval, la sécurité des données n'est tout simplement pas une priorité pour la plupart des gouvernements. À cela s'ajoute l'incompétence et la négligence des fonctionnaires. C'est inquiétant, tranche Stéphane Lemand Langlois. Le gouvernement devra faire des efforts surhumains pour améliorer la sécurité alors que nos données personnelles fuient de plus en plus sur Internet, ajoute-t-il, citant le scandale impliquant Facebook qui fait rage actuellement. Tous les organismes fédéraux ont assuré prendre très au sérieux la protection des informations, À ce jour, Ottawa estime qu'aucune brèche n'a servi à des activités criminelles. Des représentants de la meute et des Soldiers of Odin ont manifesté bruyamment leur désaccord face à la désignation de leur groupe comme étant de l'extrême droite lors d'un colloque organisé par le Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation. Dès la première conférence au Cégep Édouard-Montpetit, des membres des groupes identitaires ont chahuté les propos d'un conférencier. Il y a eu brasse camarade et le service de police de Longueuil a procédé à au moins 2 arrestations. Des prix fixes pour les aliments de base, un regroupement plaide pour une saine alimentation abordable. On ne veut pas qu'il y ait un prix fixe pour les biscuits soda ou les chips au ketchup. Il y a 35 000 produits dans un supermarché. On aimerait que le gouvernement régule le prix d'une sélection d'aliments de base pour se nourrir décemment, explique Frédéric Paré, coordonnateur général du regroupement des cuisines collectives du Québec, qui a déposé une pétition à l'Assemblée nationale pour appuyer sa déclaration pour le droit à une saine alimentation. La drogue a détruit son cœur. Un jeune homme de 23 ans attend une greffe du cœur pour survivre parce qu'il a détruit le sien en consommant de la cocaïne et jusqu'à 10 comprimés de méthamphétamine par jour. Je ne pensais pas en arriver là, en gobant un speed ou en sniffant une ligne. Je ne pensais pas que ce serait catastrophique. C'est fou comme la vie peut tenir juste à un fil, confie Joël Agacé-Maillé dans une vidéo publiée sur Facebook, vue et partagée des milliers de fois. Tout ça parce que j'ai voulu me geler la face comme un cave, souffle le jeune, mécanicien soudeur de Barre-Haute en Abitibi, couché dans son lit de l'Institut de cardiologie de Montréal. Joël Agacé-Maillé a choisi de faire une vidéo où il relate son expérience. Il veut à tout prix éviter qu'un autre jeune se retrouve dans la même situation que lui. « T'as pas besoin de ça pour avoir du fun », assure-t-il. Aujourd'hui, sa vie est hypothéquée. Non seulement attend-il une greffe pour remplacer son cœur, mais il devra aussi prendre des médicaments anti-rejet pour le reste de sa vie s'il veut le garder. Une centaine d'écolières enlevées le 19 février par des militants islamistes de Boko Haram à Dapchi, dans le nord-est du Nigeria, ont été ramenées hier matin à leur école par leurs ravisseurs. Au moins 104 jeunes filles ont été ramenées par des soldats à bord de camions tôt en matinée. Ils les ont déposées sur la route, d'où elles ont naturellement rejoint leur foyer, a expliqué le ministre de l'Information. Selon Kachala Boukar, un habitant de Dapchi, les insurgés ont même pris des photos avec les gens. Ils nous ont demandé de ne pas fuir. Ils nous ont dit de ne pas faire attention à ce qu'allait dire l'armée sur nous, a témoigné une ancienne captive, ajoutant que les combattants les ont gardées dans une pièce où elles pouvaient cuisiner et n'ont jamais été maltraitées. Cet enlèvement de masse s'est déroulé dans des circonstances quasi identiques au kidnapping de Chibok en 2014, où plus de 200 étudiantes avaient été enlevées. Gaz lacrymogène a été jeté au Parlement de Kosovo pour protester contre la ratification d'une nouvelle délimitation de la frontière avec le Monténégro, violemment contestée depuis des mois par l'opposition de gauche nationaliste. Une canette de gaz lacrymogène a été jetée au moment où les députés s'apprêtaient à voter la ratification de ce nouveau tracé. Le ou les auteurs de ce jet n'ont pu être identifiés, mais le projectile a été lancé depuis les bancs occupés par les élus de la gauche nationaliste. La séance a alors été brièvement suspendue, mais à sa reprise vers minuit 15 ou midi 15 GMT, une autre canette a été jetée, forçant les députés à quitter la salle en hâte. Le texte a finalement été ratifié en fin de soirée hier. Alors qu'une pénurie catastrophique de main-d'œuvre frappe Québec, un défi attend l'entreprise de sécurité privée qui doit recruter plus de 500 agents pour le sommet du G7 les 8 et 9 juin à la Malbaie. La firme commissionnaire du Québec affiche directement sur la page d'accueil de son site Internet le recrutement d'agents de sécurité pour le G7. Questionnée à ce sujet, l'entreprise a redirigé les questions du journal vers la GRC. Sur une page Facebook indépendante, une autre annonce de la firme est relayée avec un message mentionnant que commissionnaire du Québec a besoin de plus de 500 agents pour le G7 à Québec, dans Charlevoix et au Saguenay. Une autre offre de l'entreprise mentionne que certains agents pourraient entrer en fonction en mars, que selon l'affectation, la formation pourrait être rémunérée et qu'il est possible d'obtenir un permis temporaire du Bureau de la sécurité privée. Pour le moment, l'approche de l'événement n'a pas créé de ruée à Québec.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip, chip, boom. Do-do-do-do-do, chip. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do.
Ah, Julia m'a rappelé cette chanson que je n'avais pas écoutée depuis très longtemps, Via Con Me de Paolo Conte.
Journaux régionaux dans le droit, Benoît Sabourin. Les fermiers de famille sont prêts à livrer leurs légumes. Les fermiers de famille d'Équiterre sont de retour pour une 22e année afin de desservir les consommateurs avertis désireux de se mettre des légumes bio sous la dent sans avoir à casser sa tirelire. Ils sont plus d'une centaine de producteurs cette année à prendre part à la campagne d'Équiterre qui prévoit que 20 000 abonnements au panier bio seront offerts dans 15 régions du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. En Outaouais, 6 fermes livreront des paniers bio à 1209 familles. grâce à 37 points de livraison répartis aux quatre coins de la région. Elles sont 7 fermes dans le petit réseau à opérer dans la région, soit notre petite ferme à Gatineau, Conviction gourmande à l'Ange gardien, la ferme aux pleines saveurs Saint-André-Avelin, Jardin Terreau Sol Saint-André-Avelin aussi, le Vallon des Sources à Ripon, la ferme Coop La Rosée Notre-Dame-de-la-Paix et la ferme au solstice Namur. Lors de son lancement en 1996, le programme des fermiers de famille comptabilisait 250 abonnements. En 2017, ce chiffre a atteint 19 000, ce qui représente environ un bassin de 57 000 personnes approvisionnées. Au chapitre des fermes partenaires du réseau, elles sont passées de 7 à 129 depuis 22 ans. Selon Équiterre, les fermiers de famille proposent des paniers biologiques près de... Selon Équiterre, les fermiers de famille proposent de paniers biologiques près de 20 % moins chers que le bio qui se vend sur les tablettes des commerces et épiceries. Toutefois, selon l'organisme, le biologique a visiblement la cote dans la belle province ces dernières années. Ce sont 2,4 % des superficies cultivables au Québec qui sont consacrées à l'agriculture urbaine. Ces superficies sont passées de 49 535 hectares en 2013 à 81 499 hectares en 2017, ce qui représente un bond de 65 %. Les personnes intéressées à faire appel à un fermier de famille doivent s'inscrire au www.fermierdefamille.com. Dans le soleil, la ministre de la Culture, Marie Montpetit, et le maire de Québec, Régis Labeaume, ont confirmé mercredi une aide totale de 9,4 millions de dollars, dont 6,4 millions du provincial pour la restauration et la mise à niveau du théâtre Le Capitole à Place Diouville. C'est Jean-François Néron qui signe l'article. La ministre a rappelé l'importance de la valeur du lieu de diffusion classé bâtiment patrimonial en 1984. Le PDG du théâtre, Jean Pilote, se réjouit de cette aide sans laquelle il ne pourrait faire l'ensemble des travaux évalués à 40 millions. Fermée depuis le 8 janvier, la salle de spectacle devrait rouvrir en juin. La réouverture de l'hôtel est prévue plus tard en 2018. Dans le soleil, sous la plume cette fois d'Élisabeth Fleury, casque de vélo, l'avis de la santé publique bien reçu par les urgentologues. L'avis de l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, qui ne recommande plus de rendre obligatoire le port du casque de vélo, est bien reçu par l'Association des médecins d'urgence du Québec, AMUQ ou AMUC, qui mettra maintenant toutes ses énergies sur la promotion de cet équipement. L'AMUC se base sur des données probantes et on s'ajuste selon les données probantes. L'avis est pertinent et bien documenté. Il démontre que la promotion active du port du casque de vélo a un effet, et qu'on n'obtiendrait pas tellement plus en légiférant, d'autant qu'une loi serait difficile à appliquer. Comme association, on va donc arrêter de dépenser de l'énergie à plaider pour le port obligatoire du casque de vélo, a réagi en entrevue au Soleil mercredi le président de l'association, le Dr Bernard Mathieu. Se basant sur une imposante revue de la littérature qui incite à appliquer le principe de précaution, l'INSPQ ne recommande plus, dans son avis publié mardi, de rendre obligatoire le port du casque de vélo. L'organisme juge cependant essentiel d'identifier les efforts de promotion qui ont fait leurs preuves et de développer des infrastructures sécuritaires pour les cyclistes partout au Québec. dans le quotidien sous la plume de Mélissa Viau. La ville de Saint-Honoré prend les devants avec la gestion des animaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Après avoir modifié le contrôle des licences pour chiens en 2017, voilà qu'elle décide de micropucer ses animaux domestiques. Le règlement stipulant que tout chien ou chat gardé sur le territoire de Saint-Honoré devra être muni d'une micropuce entrera officiellement en vigueur le 1er janvier 2020. Pour accommoder les citoyens, 4 cliniques d'implantation de micropuces sont prévues d'ici l'automne 2019. La première aura lieu le 5 mai prochain au centre récréatif de Saint-Honoré par l'équipe de l'hôpital vétérinaire du Boisé. Le but est de responsabiliser les propriétaires d'animaux et de réduire le problème de chats errants, explique le maire de Saint-Honoré, Bruno Tremblay. Dans la logistique de ce dossier, le comité de gestion des animaux compte une importante partenaire qui a cœur le bien-être animal. C'est Cheryl Desbiens de SOS Stérilisation qui m'avait parlé des micropuces il y a un an et je trouvais ça intéressant. Madame Desbiens, qui est la présidente fondatrice de l'organisme SOS Stérilisation, fait la promotion de la stérilisation des chats et des chiens depuis 2012. C'est aussi elle qui participera à la logistique des cliniques de micropuçage. Ce printemps, lors de la première clinique d'implantation, les propriétaires devront débourser 10 $ par animal. À l'automne 2018, les frais seront de 15 $. Au printemps 2019, on demandera 20 $ et à l'automne 2019, ce sera 25 $, mentionne M. Tremblay. C'est un net avantage si on compare aux services en clinique vétérinaire qui se situent entre 50 et 90 $. Comme nos licences pour chiens ne sont plus obligatoires, c'est la micropuce qui nous permettra éventuellement de gérer les animaux errants. La micropuce est un dispositif électronique de la taille d'un grain de riz contenant un petit émetteur-récepteur inséré sous la peau de l'animal. Ce dispositif contient un numéro d'identification unique relié à une base de données, ce qui permet d'accéder à des informations importantes relatives à l'animal, incluant les coordonnées du propriétaire. Cette intervention est sécuritaire pour la santé de l'animal et sans douleur. Et pour terminer, dans le Nouvelliste, le Festival Western de Saint-Tite, parmi les plus payants au Québec avec des retombées économiques de plus de 45 millions dans la région, le Festival Western de Saint-Tite s'inscrit désormais comme l'un des événements les plus payants dans toute la province. L'événement qui vient de rendre public les résultats d'une étude menée par la firme KPMG en collaboration avec le regroupement des événements majeurs internationaux espère désormais que ces chiffres incitent les différents paliers de gouvernement à reconnaître l'importance d'investir davantage dans l'événement touristique. Ce qu'on veut surtout dire aujourd'hui, c'est de continuer d'investir en nous. Ça vaut la peine, lance d'emblée le directeur général du festival, Pascal Lafrenière. Vous écoutez le quotidien des quotidiens, émission de revue de presse. À venir, la dernière demi-heure de l'émission avec les actualités culturelles et artistiques ainsi que les sujets libres. Je parlerai notamment de cet article qui concerne Céline Dion qui annule d'autres spectacles en raison de problèmes de santé.